Voici la revue de presse avec vous, Ajera Mohammad. Bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Après le drame, malgré le drame, l'Allemagne a résisté à l'emballement.
Hier, alors qu'une voiture a foncé dans la foule dans la vieille ville de Münster, tuant deux personnes, les Allemands n'ont pas cédé aux rumeurs et aux fausses coupes. C'est ce que nous raconte le Figaro.fr. Les médias ont évité la surenchère, les responsables politiques ont su peser leurs mots. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, a évoqué tout d'abord un terrible incident. Angela Merkel, la chancelière, a laissé l'une de ses porte-paroles exprimer sa préoccupation devant les terribles nouvelles venant de Münster. De la précaution et à raison, finalement, la piste de l'attentat islamiste est écartée. Le conducteur est un Allemand de 48 ans, psychologiquement déséquilibré, lit-on ce matin dans la presse allemande.
Et pourtant, si la majorité des Allemands fait preuve de retenue et de rigueur, certains se sont tout de même enflammés.
Comme Beatrix von Storch, cette responsable de l'AfD, le parti anti-immigration, a tweeté « Nous réussirons » avec un petit smiley en colère. « Nous réussirons », c'était le slogan fétiche d'Angela Merkel pour défendre sa politique d'accueil des réfugiés. Un tweet est le début de l'amalgame donc. Prise à son propre piège, la responsable politique a finalement fait son mea culpa. Tout est exagéré. Tout soupçon n'est que pure précipitation, a-t-elle déclaré, sans pour autant retirer son message. Faire des réfugiés des boucs émissaires, c'est aussi un peu la spécialité de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois est bien parti pour enchaîner un troisième mandat ce dimanche en cas de victoire aux élections législatives. Et pour garder le pouvoir, Orban a sa petite recette bien à lui, nous explique Libération. D'abord, purger l'administration, renvoyer des milliers de fonctionnaires remplacés par des employés sélectionnés pour leur loyauté. Et puis surtout, prendre le contrôle des médias avec un audiovisuel public qui balance à longueur de journée ses discours anti-immigration, anti-européens. Et tant pis si c'est à coup de fake news. Le service public est aujourd'hui une propagande inimaginable au service du parti au pouvoir, constate ainsi Agnès Urban, professeure à l'université de Budapest. L'Europe est inquiète, observe, mais on laisse faire. Viktor Orban, lui, exulte. Il est loin le temps des défaites quand il était dans l'opposition dans les années 2000. Quand nous dit Libé, un groupe d'intellectuels conservateurs, il avait confié ces mots. J'aimerais gouverner pendant une ère entière. Cette ère, on est en plein dedans.
Et en France, nous sommes dans une ère de réforme et ça va continuer comme ça, martèle le Premier ministre Édouard Philippe.
Et le Premier ministre qui accorde ce matin une grande interview aux Parisiens aujourd'hui en France, alors que la grève à la SNCF a repris hier soir. Interview pleine de détermination et en même temps, on sent une petite pointe d'agacement. Il faut avancer et tout le monde doit savoir notre détermination à aller jusqu'au bout, dit-il au sujet de la réforme de la SNCF. Quand on l'interroge sur le climat social actuel et ce petit air de mai 68 qui flotte, là Édouard Philippe relativise. J'ai du mal à voir une convergence entre des militants d'extrême gauche qui viennent perturber les amphis et les soignants dans les hôpitaux. J'ai du mal à voir la convergence entre ceux opposés à la réforme ferroviaire et les salariés d'Air France qui demandent des salaires plus élevés. Ce ne sont pas les mêmes objectifs selon lui. Quant à son ressenti personnel, le Premier ministre rassure. Aucune espèce d'angoisse, je suis passionnée par ce que je fais. Certains ont dit que Matignon est un enfer, c'est une pensée que je ne comprends pas.
Un autre enfer à présent, dans lequel vont s'élancer 175 coureurs cyclistes aujourd'hui.
C'est l'enfer du Nord, celui du Paris-Roubaix, la 116e édition. Dans le journal du dimanche, le Suisse Fabian Cancellara, ancien coureur pro, trois fois vainqueur de l'épreuve, résume ainsi la reine des classiques. Si tu n'es pas à 110%, s'il te manque une chose, la course te le fait payer. Et bien sûr, tout dépend de tes sensations sur les pavés. Tu les aimes ou tu les détestes. Le Paris-Roubaix, c'est de l'amour et de la haine. Mais cette course est aussi une occasion en or pour l'Oise où le départ sera donné à Compiègne. Le département où les gîtes et les hôtels affichent complet, rappelle le Parisien dans son édition locale. Le Paris-Roubaix est l'épreuve la plus suivie à la télé en Europe après le Tour de France, rappelle son directeur. L'occasion de mettre en valeur un territoire, c'est ça aussi le pouvoir du vélo, le seul sport qui n'est pas enfermé dans un stade.
Le seul sport, ou presque, parce qu'il ne faut pas oublier le marathon, par exemple.
Surtout pas aujourd'hui, alors que des milliers de coureurs vont suer pendant 42 km sur le marathon de Paris. Mais s'il y a un pays où le marathon est une religion, c'est le Japon. Le reportage est à lire dans l'équipe, le magazine. Dès l'aube, les parcs de Tokyo sont pris d'assaut par les runners. Dans les boutiques tout autour, on peut louer des serviettes et se doucher. Entre 15 et 25 millions de Japonais courent. Sur 125 millions d'habitants, c'est pas mal du tout. Et pour Toshihiko Seko, vainqueur de 11 marathons, il y a une explication. Le marathon sied bien au Japon car il est très comparable aux racines agricoles du peuple japonais. Il fallait cultiver sa terre sérieusement et minutieusement, petit à petit, jour après jour, à coups d'infimes progrès. Le marathon en serait un prolongement comme le fut avant les arts martiaux, école de patience dans la maîtrise. Il s'agit en fait de pouvoir endurer la douleur pour dire « j'y suis arrivé ».
Et vous y êtes arrivé aussi. La lecture des journaux de ce dimanche. La revue de presse était signée Adjera Mohamed. Merci beaucoup Adjera.